21h à Gao et à Bamako, 21h à Conakry. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Comment mettre fin à l'insécurité alimentaire? Il faut donner le pouvoir aux femmes, dit le Programme alimentaire mondial. Le tourisme dans le Nord Mali pourra-t-il reprendre un jour? Les artisans et les professionnels commencent à perdre espoir.
Nous, on pensait qu'avec le retour de la paix, au moins, on allait songer à la maison des artisans. Rien n'est fait. Honnêtement, on n'a rien. Chez nous, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau.
Reportage de notre correspondant Boubacar Touré à suivre. Enfin, panorama de la presse en Guinée. Il y est difficile d'exercer son métier de journaliste. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Les États-Unis appellent le FMI à effacer près d'un cinquième de la dette des trois pays ouest-africains les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Les États-Unis, premier actionnaire de cette institution, souhaiteraient un allègement global de 100 millions de dollars en précisant que le montant devrait être déterminé après consultation avec le fonds et les 188 États membres. Le Mali connaît deux nouveaux décès liés au virus Ebola à la clinique Pasteur de Bamako. Ces décès sont liés à l'entrée d'un ressortissant guinéen âgé de 65 ans. Plusieurs dizaines de personnes sont en quarantaine alors que le gouvernement a annoncé hier la fin de l'isolement pour 108 personnes suite au décès le 24 octobre dernier à Kaye d'une fillette venue de Guinée. Le point avec Dramane Maïga, il est le directeur de la clinique Pasteur à Bamako.
À la clinique Pasteur aujourd'hui, on a eu un premier décès le 27 octobre. C'est un Guinéen qui est arrivé dans la nuit, après minuit, donc avec un tableau de dyspnée. Donc dans l'urgence, le médecin l'a hospitalisé. Trois jours après lui, il est décédé. Mais ce n'était pas confirmé. La confirmation est venue après parce qu'il y a eu beaucoup de cas de décès dans sa famille et dans les familles dans lesquelles il est passé. On suppose que c'est un cas d'Ebola. Ensuite, l'infirmier qui l'a traité le premier jour de son arrivée, l'infirmier aussi, bon, lui, il est décédé hier. Pour lui, les examens sanguins ont été faits. C'est revenu positif. On a un médecin aussi. Il y a une suspicion parce qu'il a des fortes fièvres. Le traitement a été fait aujourd'hui, je crois. Donc, il faudra attendre 24 heures pour avoir les résultats. Donc, selon les dernières nouvelles, le médecin qui a été évacué sur le site, il est résolu au traitement. Donc, on a bon espoir. On prie tous pour lui pour que vraiment qu'il s'en sorte.
Dramane Maïga, il est le directeur de la clinique Pasteur à Bamako.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'OTAN dit avoir observé de nouvelles colonnes de chars, pièces d'artillerie et troupes de combat russes entrées ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine. Et l'armée ukrainienne dit qu'elle se mobilise pour faire face à une éventuelle offensive de ses troupes. Le président palestinien Mahmoud Abbas va rencontrer jeudi à Amman le secrétaire d'État américain John Kerry pour examiner la situation au Moyen-Orient, notamment l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens. M. Abbas a été reçu aujourd'hui par le souverain jordanien Abdallah II, rencontre qui précède un entretien entre le roi et le secrétaire d'État américain. Ces entretiens interviennent au moment où Jérusalem-Est et l'esplanade des mosquées qui s'y trouvent sont en proie à de vives tensions. Par ailleurs, Israël a approuvé ce mercredi la construction de 200 nouveaux logements à Jérusalem-Est, passant outre la réprobation internationale contre la poursuite de la colonisation qui contribue à l'actuelle escalade des tensions avec les Palestiniens. Les violences se sont poursuivies avec l'incendie d'une mosquée à l'aube en Cisjordanie et le jet d'un cocktail Molotov mardi soir sur une synagogue désaffectée dans une localité arabe au nord d'Israël. Le président américain Barack Obama se trouve aujourd'hui à Myanmar, également appelé Birmanie, dans le cadre du sommet de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Son arrivée a coïncidé avec la publication d'une interview dans la revue Irrawaddy, interview dans laquelle M. Obama critique des retours en arrière en Birmanie, en dépit de certains progrès depuis 2011. Le président américain devrait faire part de ses préoccupations à son homologue birman Thein Sein et au chef de l'opposition, Mme Aung San Suu Kyi. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, restez avec nous. La suite de Sahel Plus, c'est maintenant avec Claire Morin-Gibourg, avec laquelle nous remontons les dunes du Sahel.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. La faim dans le monde recule. En 10 ans, ce sont 100 millions de personnes qui ne souffrent plus de malnutrition chronique. Des progrès importants, même s'il reste encore 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, dont beaucoup en Afrique subsaharienne. Mais comment faire pour que ces progrès continuent ? Le PAM, le Programme alimentaire mondial, affirme que ce sont les femmes qui permettent le recul de la faim et qu'il faut impérativement encourager les petites exploitations agricoles qu'elles dirigent. Elisabeth Biers est la porte-parole du PAM.
Comment nourrir 9 milliards de personnes en 2050, c'est un défi. Les ressources sont là. On peut nourrir la population, encore faut-il qu'il y ait des volontés politiques. Mais il y a aussi une première chose que l'on peut faire, c'est donner les mêmes capacités aux femmes qu'aux hommes. Les femmes représentent 60% de ces personnes qui ont faim, les femmes, les filles. Et c'est elles qui ont les clés de l'agriculture familiale. Il faut aider la productivité de ces petites exploitations, donner le pouvoir aux femmes, parce que ce sont elles qui représentent plus de 60% de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. C'est elles qui nourrissent les enfants, et si elles ont un meilleur accès à la terre, au financement, aux outils, à la technologie et aux prêts financiers pour faire marcher leur petite exploitation, leur petit lopin de terre, leur petit élevage, eh bien ce sont elles qui pourront justement améliorer la sécurité alimentaire de leur famille, de leur village. Une femme, quand elle gagne un peu plus, quand elle a un revenu supplémentaire, elle le dépense, contrairement à un homme, plus pour la nourriture de ses enfants, l'éducation de ses enfants, la santé de ses enfants. Et ce sont ces femmes qui feront des générations futures dans les pays en développement beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides, qui ne souffriront pas de rachitisme et qui auront donc une force de travail meilleure pour le pays. Donc il faut donner le pouvoir à ces femmes, au moins leur donner des capacités égales aux hommes dans les pays où la coutume n'est pas de les aider.
Elisabeth Biers, porte-parole du Programme alimentaire mondial. Direction le Mali pour notre dossier. Depuis plusieurs années, les activités touristiques ont cessé dans la région à cause de l'insécurité et la guerre. La direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie, l'OMATO, ne travaille presque pas. Les artisans n'arrivent plus à écouler leurs produits et les personnes qui servaient de guides touristiques sont dans l'obligation d'exercer d'autres métiers pour survivre. Le tourisme pourra-t-il reprendre un jour dans le nord du pays ? Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Les enlèvements de véhicules et les prises d'otages dans le nord du pays ont eu pour conséquence l'arrêt des activités touristiques à Gao. La direction régionale en charge du tourisme et de l'hôtellerie, impuissante, constate. Maman Imiran Touré, agent de la direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie.
On peut dire même que le tourisme n'existe pas tout de suite. Pour autant, les sites existent, tels que le site de Sanaï, le site de Kankoumoussa, le site de Tombeau des Aska, et le site de la Dune Rose ou Koima. Avec l'insécurité qui prévaut chez nous, là, tout le développement touristique est bloqué. Le monde de guides, aujourd'hui, ils n'ont rien à faire. Même les artisans, ça ne marche pas. Et les hôteliers, ça ne marche pas. Les locataires, ça ne marche pas. Un impact qui freine le développement en réalité de ce secteur.
À la maison des artisans située au château secteur 1, sur les 60 boutiques occupées avant la crise, seulement une vingtaine sont opérationnelles car les artisans ne parviennent plus à payer leur loyer par faute de clients. Mamadou Ngom, membre du comité de gestion de la maison des artisans.
Nous, on pensait qu'avec le retour de la paix, au moins, on allait songer à la maison des artisans. Rien n'est fait. Honnêtement, on n'a rien. Chez nous, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Ceux qui ont peut-être la chance de faire un peu le tour vers le sud arrivent à un peu écouler. Mais ici à Gao, en tout cas, présentement, personne ne vient. C'est compliqué. Hein? En ce qui concerne notre produit de base qui est le cuir sur place, on arrive à acheter avec les femmes qui font les tanneuses, comme on les appelle ici. On arrive. Mais sinon, les autres matières, il faut chercher à Bamako. Et ça, on n'a pas le moyen de le faire présentement. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez que les produits sont minimes. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas. Vous voyez, les saucisses, il n'y en a pas. Et parce que, tout simplement, on n'a pas le moyen d'aller acheter. Il y en a qui sont partis. Hein? Il y en a qui sont partis. Les maisons sont fermées, vous savez. Et les gens sont partis. parce qu'il n'y a rien à faire. Il y en a d'autres qui sont partis jusqu'au Burkina, au Niger, un peu partout, jusqu'à Bamako. Mais ils sont partis seulement parce qu'ils ne sentent rien ici et ils n'ont pas d'espoir.
Ibrahim Samake est un forgeron à la maison des artisans de Gao. Il est heureux ce matin. Il s'empresse donc de finir un tableau commandé par un client de la MINUSMA.
Ici à la maison des artisanats de Gao, c'est vrai que on est très longtemps de voir notre ami qui est les Blancs. À partir de 2012, on connaît du travail qui n'est pas pour les Blancs seulement. Parce qu'on connaît nous d'abord avec le couteau qui coupe les riz. Mais franchement, on a les problèmes parce que déjà on habitait des Blancs. Quand on a fait un objet, par exemple un bague là, on gagnait plus que notre population. Bon, vraiment, ça nous fait blesser. Ils sont en train de bricoler avec nos populations même. Les difficultés, quand même, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a 30 magasins fermés avec les difficultés de l'artisanat. On a entendu le marché des dernières boutiques avec beaucoup de puits, avec beaucoup de maraîchages que les autres ils ont financé les autres. Mais nous, non, rien. On n'a rien vu jusqu'à présent.
Vous êtes à la forge. Qu'est-ce que vous fabriquez comme ça?
Bon, actuellement, je fabrique un tableau des gens de Oni. Ceux qui m'ont vu mon tableau, ils m'ont dit que vraiment c'est bien, donc ils ont envie de faire une commande de tableaux.
Et ce tableau-là, combien tu peux le vendre?
Ça, je ne peux pas te le dire, hein, mon ami, parce que c'est quelque chose à secret, moi. Gao est riche, Gao a de force, Gao est intellectuel, Gao a des hommes.
Si les artisans parviennent quelquefois à vendre des produits grâce à la présence de la mission internationale, c'est loin d'être le cas avec les guides touristiques. Abdrahman Meiga, guide touristique, fait un peu de tout pour subvenir aux besoins de sa famille.
Actuellement, on fait tout ce qu'on trouve parce qu'on n'a pas le choix. Notre métier réel n'existe plus, donc on est obligé de faire notre métier. Au niveau Serval, nous les guides, on ne peut pas nous faire travailler parce que nous, on découvre le pays et ils sont pas... On n'a pas trop besoin de nous. On n'a pas eu encore d'aide, honnêtement. Moi, je leur dis, il ne faut pas oublier le Nord, parce que le Nord, c'est la culture du Mali. Et les guides, c'est la culture du Mali. Les guides, c'est eux qui rapportent la culture.
Les autorités maliennes doivent accorder un peu de considération aux guides, car ils sont maliens et méritent aussi de vivre. C'est la réflexion de Alouata Touré, dit le magnifique guide touristique.
Mon nickname, mon surnom s'appelle Camille le Magnifique. Bah, en fait, je suis un guide national pour le Mali. Et je ne sais pas, c'est l'État malien qui a oublié les guides du Nord ou quoi. Et nous, on est là vraiment, ça galère. Quand on dit guide, on a dit traducteur. Il y a des gens qui parlent bien anglais. Parmi les guides, il y a des cuisiniers. Parmi les guides, il y a des chauffeurs. Pousse-pousse s'arrête au mur. Mais personne ne parle de guide. Ni MINUSMA, ni Serval, ni gouverneur, ni Mali, ni rien. Personne ne parle de guide. On dirait que les guides n'existent pas. Les guides font partie du Mali. Ils n'ont qu'à nous faire venir discuter avec nous à table. Ça nous fait plaisir. Alors que c'est les guides qui peuvent mettre le feu dans un pays. Va voir les autres pays. Qu'est-ce qui veut dire guide? Les guides sont respectés. Mais ici, les guides ne sont pas respectés, franchement. Mais on voit un guide est triste. Il n'a même pas mangé. Il est mal habillé. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais les guides, il ne sera plus le guide. S'il a juste le nom guide. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a les guides, les guitares et des guidons. Ça, c'est juste ceux qui suivent les touristes comme ça. Un guide, Allahu Akbar. Guide, ça veut dire grand-chose, mon gars. Qu'ils ont tenu la guerre, ils sont restés ici. Ils n'ont pas suivi les cons, ils n'ont pas pris des armes. Ils ont dit toujours le Mali. Le Mali, le Mali. Et le Mali est là, on pense même pas à ces gens-là. C'est dommage.
La reprise des activités touristiques dépend du retour de la paix dans le nord du pays. L'espoir est donc permis à en croire Mohamed Imran Touré, agent de la Direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie.
Il y a des dispositions qui sont déjà prises par l'État. Ce secteur, on y fait beaucoup attention, on y attache beaucoup d'importance. Tout se repose sur le retour de la paix.
La paix souhaitée par tous peut-elle s'instaurer dans le nord du pays? Voilà la réponse du magnifique, notre guide touristique.
Bah écoute, pour avoir la paix, il faut que la jeunesse même a la paix. Il faut manger bien pour avoir la paix. On dit celui qui a faim n'est pas un homme libre. Quand tu as faim, comment tu as la paix? Il y a toujours quelque chose qui cloche. Bon, on est dans le main de Dieu, on verra comment ça va se passer à la fin.
Gao Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique.
Et Gao, vous nous écoutez sur le 101.7 FM, sur la radio à Adar Koïma. Nous sommes en Guinée pour terminer l'émission. Une enquête publiée cet été a révélé que plus de la moitié des journalistes des médias privés qui exerçaient à Conakry travaillaient dans des conditions de précarité. Nombreux sont ceux qui n'ont même pas de contrat de travail. Reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Pour alerter les décideurs, l'ONG Alternative Guinée Espace Citoyen a mobilisé 10 enquêteurs pour interroger 140 journalistes et 27 patrons de presse. Ismaël Kabiné Camara, vice-président de l'ONG.
Mais il y a beaucoup qui disent que bien qu'ils aient un contrat de travail, les clauses ou les termes de ce contrat de travail ne sont pas respectés. Ça veut dire que soit ils ne sont pas payés, comme le stipule le contrat de travail, soit ils ne perçoivent pas du tout. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ne perçoivent rien du tout.
Surexploitation, manque de contrat, sous-formation, mauvais traitement, tel est le quotidien de la majorité des journalistes guinéens. Algassi Moubaldé est journaliste dans une radio privée.
Dans le cadre des conditions de vie, ça reste à désirer. Certainement, c'est comme les autres radios de la place parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de collègues qui sont dans les autres radios qui me disent leurs conditions de vie.
La précarité dans les médias privés en Guinée est un constat général. Selon l'ONG Alternative Guinée, Espace Citoyen, 70% des journalistes dans ces médias n'ont pas de contrat. Ceux qui en possèdent disent être mal payés. Une citation que confirme Hassan Kaba, président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante.
De façon générale, il faut reconnaître, avoir le courage de dire que les journalistes ne sont pas très bien traités. Et c'est là depuis quelques temps déjà, et au point que dans un certain entendement, cela a donné naissance à ce que d'aucuns ont qualifié de journalisme alimentaire. Ce journalisme alimentaire se situe aux antipodes du journalisme véritable.
L'espace médiatique privé en Guinée est composé de moins 100 sites d'information, au moins 35 radios privées et plus d'une centaine de journaux. Les journalistes n'ont pas de syndicat et sont exposés à toute forme d'exploitation. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la console, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec l'artiste nigérien Bombino et son Ténéré. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.